Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Parfois, jouer peut vous soigner. Le continent européen doit faire face à une population qui vieillit. Cela présente de nombreux défis. D'abord, le défi de la dépendance, souvent provoquée par la démence, dont la maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente. Cette maladie se manifeste par des troubles de l'humeur et de la mémoire. Alors, comment faire pour améliorer la vie des personnes atteintes? L'association France Alzheimer s'apprête à lancer cette année une étude surprenante. La pratique du tennis de table, le ping-pong, serait en mesure de ralentir les effets de la démence. Une thérapie par le sport expérimentée depuis déjà 2 années à Berlin. Notre correspondant Julien Méchaussi s'est rendu dans un gymnase avec d'étonnants sportifs.
Quartier de Marzahn, dans l'est de Berlin, il est 10h du matin et Jürgen Schäffner enchaîne les exercices de gymnastique. Les dizaines de participants âgés de 60 à 86 ans suivent parfaitement le rythme donné par leur entraîneur. Après cette bonne demi-heure d'exercice, il est enfin temps de sortir les tables de ping-pong et d'échanger les premières balles sous l'œil attentif de l'entraîneur Jürgen Schäffner.
Après les exercices de gymnastique, ils échangent des balles sans compter les points. Ça vient un peu plus tard dans la séance. Compter les points, faire attention au changement de service, c'est déjà en soi une difficulté mentale pour les participants. Et quand ils jouent en double, ça devient un véritable défi. Nous démarrons donc à chaque fois doucement. Ça permet aux participants de se mettre en confiance et de bien finir l'échauffement. Quand une personne reçoit le diagnostic de démence, c'est comme si le Titanic mettait le cap vers un iceberg sans demi-tour possible. Ce diagnostic comprend également le plus souvent le nombre d'années qu'il vous reste à vivre. La plupart du temps, 7 ou 8 ans. C'est un choc non seulement pour le malade qui voit son existence bouleversée, mais également pour ses proches.
La plupart de ces sportifs seniors atteints de démence et à l'impressionnant coup de raquette viennent chaque semaine, accompagnés de leur conjoint ou d'un ami, à l'image de Yuta, qui accompagne son mari, Frank.
C'est devenu un rendez-vous très important pour nous. Il est essentiel que nous sortions de l'appartement, que nous ne restions pas seuls. À notre âge, vous savez, le cercle d'amis se réduit de plus en plus avec le temps qui passe. Venir ici, vivre des choses ensemble dans un groupe qui se connaît bien, cela nous permet d'avoir une vie sociale. Cela compense le peu de contact que nous avons encore avec les membres de la famille.
Ce rendez-vous hebdomadaire a pu voir le jour grâce à un plan du gouvernement pour promouvoir les thérapies contre la démence. Lancée en 2020, cette stratégie a permis de débloquer des fonds alloués à la Fédération olympique allemande. Si de nombreuses études ont déjà démontré que le sport permettait de ralentir les effets de la démence, le tennis de table ne faisait jusqu'ici pas partie des disciplines mises en œuvre. Trop difficile, trop rapide étaient les arguments le plus souvent avancés. Contacté il y a un an pour monter un groupe d'entraînement, Jürgen Schäffner avait lui aussi ses doutes, plus aujourd'hui.
Friedrich, par exemple, quand il a commencé ici à 86 ans, il pouvait faire au maximum 5 ou 6 échanges de balles à la suite. Aujourd'hui, il arrive facilement à 60 échanges. Même sans être malade, il faut en être capable. C'est tout le mystère de ce sport. Vous avez une petite balle blanche qui rebondit et fait un bruit bien spécifique. Cette balle arrive vers vous et il faut réagir face à ces nombreuses informations. Et malgré la maladie, les participants y arrivent merveilleusement bien.
Friedrich ou Fritz, comme il préfère se faire appeler, est le doyen du groupe. Il souffre de la maladie d'Alzheimer. Joyeux drill de la bande, il affiche toujours un large sourire. S'il se rappelle de sa jeunesse, de l'endroit où il a grandi, sa mémoire à court terme lui fait défaut.
Je m'amuse beaucoup ici, tout simplement. À la maison, je ne m'amuse pas comme ça. Vous savez, j'habite à Minden. Ça fait loin pour venir une fois par semaine jusqu'ici. C'est tout à l'ouest du pays, en Westphalie.
In Westfalen, ein ja.
Fritz n'habite pourtant pas à Minden où il a grandi, mais bien à Berlin depuis de nombreuses années. Pour soulager Renate, la femme de Fritz, c'est Marlene, une amie de la famille, qui accompagne toutes les semaines Fritz.
Malheureusement, il oublie tout de suite que nous sommes venus. Il est incapable de raconter à sa femme ce qu'il a fait. Mais les 2 heures que nous passons ici, chaque semaine, ce sont à chaque fois des moments remplis de joie. Je suis si heureuse de vivre ça à ses côtés et je peux ensuite tout raconter à sa femme.
Pour faire travailler la mémoire de Fritz, Marlene fait des photos qu'elle colle dans un carnet de bord et écrit des petits textes. Elle documente ainsi chaque entraînement ou des sorties, comme tous les mercredis, jour de la semaine où la femme de Fritz va nager.
C'est moi qui m'occupe également de Fritz ce jour-là. Nous allons nous promener, toujours avec des raquettes à portée de main, et nous jouons dehors dans un parc. D'habitude, il ne se rappelle jamais, mais un jour, alors que nous jouions, il m'a dit d'un coup « Oh, j'ai déjà joué au ping-pong !» Il s'en rappelait même un jour après.
Une petite victoire sur la maladie, impensable il y a encore quelques mois.
Money is such a beautiful word.
I know.
Parfois, le jeu est une maladie. Et en Irlande, les autorités s'inquiètent d'un nouveau phénomène. Les jeunes ajoutent addiction à addiction. Les jeux de hasard sont de plus en plus souvent associés à la prise de cocaïne, selon une étude récente de l'Institut de recherche économique et sociale. Face aux risques pour leur santé mentale, le gouvernement irlandais s'apprête à légiférer cette année pour encadrer les jeux d'argent, notamment la publicité qui en est faite, Laura Taouchanoff.
Depuis 2015, le nombre de joueurs compulsifs a quadruplé chez les 17-20 ans. Et pire, dans un centre de lutte contre les addictions situé à la frontière avec l'Irlande du Nord, on parle d'une multiplication par 20 du nombre de personnes accros aux jeux d'argent. Les femmes seraient-elles aussi de plus en plus nombreuses à consulter? La différence avec une addiction à l'alcool, par exemple, c'est qu'avec le jeu, tout va très vite. C'est moins graduel. Il n'y a pas non plus cette limite physique qu'il y aurait, par exemple, avec une prise d'héroïne. Ici, la seule limite, c'est l'argent. Un facteur aggravant, c'est que le jeu passe souvent aussi par les paris sportifs. Il y a un grand nombre d'applications sur le téléphone, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours des matchs. Les médecins de ce centre appellent donc à créer des unités de prise en charge spécialisées pour cibler le soin autour des jeux et de la cocaïne. Cette drogue est très populaire chez les joueurs, elle a tendance à leur donner des ailes et à leur faire prendre plus de risques et dépenser donc plus d'argent. Outre les situations financières très compliquées qui en découlent, les autorités s'inquiètent aussi pour leur santé mentale. Ces personnes deviennent très angoissées, dépressives, avec des idées noires. Les études montrent que ces joueurs sont 15 fois plus à risque de se suicider.
Au Royaume-Uni, la crise économique touche de plein fouet les familles avec une inflation qui reste au-dessus de 10%. Acheter des jouets aux enfants devient un luxe. Alors les ludothèques sont de plus en plus populaires. C'est un reportage de Marie Billon.
Tous les vendredis matins, une bonne dizaine de parents viennent avec leurs enfants assister à la session musique dans la ludothèque de Charlton, un quartier excentré au sud-est de Londres. Assis dans l'aire de jeu, entourés de joujoux, doudous et babioles, les bambins, âgés de quelques mois à environ 4-5 ans, se balancent sur les comptines. Une fois la session terminée, c'est la chasse au trésor qui commence. Freddy demande à sa fille de 2 ans et 3 mois, Sadie, quel jouet elle veut emprunter aujourd'hui et ramener à la maison pour les 3 prochaines semaines. Elles viennent à la ludothèque de Charlton depuis que Sadie est tout bébé.
Acheter des jouets, c'est cher et les enfants s'en lassent vite. Et puis notre maison est petite, donc on ne veut pas accumuler les joujoux. Notre fille sait que certains appartiennent à la ludothèque, donc je lui rappelle qu'un jour, on va devoir les rapporter. Je pense que grâce à ça, elle est moins attachée, moins possessive qu'elle n'aurait pu l'être. C'est une bonne éducation. Mais au départ, on est venu ici pour réduire nos coûts et les déchets.
Même analyse pour Jamaica, qui quitte la ludothèque avec son fils, Artemis, 7 mois, en portant un sac rempli de jouets.
5 jouets et tout ce qui font de la musique, le genre de choses qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir tout le temps chez soi. Donc on les loue pour 2 semaines et puis on dit « c'est magique, ça a disparu ». Bien sûr, c'est bien de ne payer que 50 centimes pour la location, mais c'est surtout pour l'environnement que c'est bien. Tous ces objets, ils sont pleins de plastique, les emballages, mais aussi le jouet lui-même. Donc c'est bien de ne pas avoir à l'acheter pour s'en débarrasser ensuite.
La ludothèque, qui est une association, compte 227 membres qui paient un abonnement d'environ 20 euros par an. C'est moitié prix pour les grands-parents. puis 50 centimes par jouet, parfois un peu plus d'un euro suivant la taille. Les prêts courent sur 3 semaines, mais il n'y a pas de limite sur le nombre de renouvellements ou le nombre de jouets empruntés. Jack Wheeler est l'un des volontaires chargés de nettoyer les jouets quand ils sont retournés, mais aussi de faire visiter les lieux aux nouveaux venus.
Là, c'est l'aire de jeu. Et juste à côté, on a une étagère avec des livres qu'on peut louer gratuitement. Ici, c'est notre salle principale. Il y a beaucoup de choses, des jouets pour bébés, d'autres en bois, et puis des jouets plus grands, des maisons, des châteaux ou des poupons. Vous avez aussi des jouets électriques, d'autres qui font de la musique. Là, c'est Peppa Pig et c'est toujours un grand succès. Et puis, il y a des duplos, de quoi jouer à la dinette, à la police, aux pompiers ou pour faire les magasins. Il y a les déguisements. Et enfin, là, vous avez les jouets encore plus grands, des piscines à balles, des tunnels ou encore des puzzles pour tous les âges.
Games and puzzles for all ages.
We got the buggy. Pendant ce temps-là, Freddy et Sadie ont fait leur choix. Pour quelques joujoux et une pénalité pour des jouets qu'elle a ramenés en retard, Freddy paye 3,50 €.
Yeah, it's really good value.
Mais certaines familles n'ont même pas les moyens de payer ces quelques sous, explique Vicky, qui est la coordinatrice de la ludothèque.
Nous avons 227 abonnés payants et 98 qui font partie d'un programme que l'on appelle l'Outreach, qui ne paye rien. Elles ont gratuitement accès à des jouets, des livres, mais aussi des habits, et parfois des bons pour acheter de la nourriture quand nous en avons les moyens.
Ce service-là va au-delà du principe classique de la ludothèque. Janine est la trésorière de la ludothèque de Charlton. À Noël, elle comptait 77 familles dans le service Outreach gratuit. Ça veut dire qu'en un mois, 22 autres familles ont été référées à la ludothèque par leur docteur ou bien par les services sociaux.
Il y a énormément de gens qui ont des difficultés énormes dans la crise qu'il y a actuellement. Mais même il y a ceux qui n'ont même pas l'argent d'acheter assez de nourriture. Donc, ils n'ont pas les moyens d'acheter ni les jouets, les livres, ni ce qu'il faut pour la maison. Et pour ça, on a des fonds de BBC Children in Need.
C'est Janine qui doit trouver l'argent pour faire tourner l'association, qui n'est pas financée par les autorités locales, mais uniquement à travers des appels aux dons. Alors, la ludothèque a dû se séparer d'une de ses 3 employées en décembre.
C'est difficile. Et ça devient de plus en plus difficile parce que les gens, en général, ont de moins en moins de l'argent pour nous aider avec les frais. Et puis en plus, les organisations qui donnent des fonds, il y a de plus en plus de compétition pour essayer de trouver de l'argent pour les salaires et puis pour le gaz, l'électricité. Mais le gaz, avant, ça nous coûtait plus ou moins 1000 livres par an. Et maintenant, à partir du mois de janvier, ça va nous coûter 2600 livres. Donc on va avoir du mal.
Bye Angela.
Janine espère que les bons jours et la chaleur reviendront bientôt pour économiser. En attendant, l'association compte sur les gens, comme cette maman qui vient de déposer la poussette dont elle ne se sert plus. La ludothèque pourra la prêter à une famille dans le besoin ou la vendre pour essayer de gagner un peu d'argent pour couvrir ses frais.
Il faut qu'on trouve les autres manières de vivre. Il ne faut pas que les gens nous empêchent de faire ce qu'on veut faire. Et ça, c'est toutes mes expéditions.
C'est un monument des amateurs des chaînes d'aventure qui vacillent. L'explorateur suisse et sud-africain Mike Horn, aventurier de l'extrême, aujourd'hui rattrapé par son passé militaire du temps de l'apartheid. Cela fait des remous en Suisse, d'où nous appelle notre correspondant Jérémy Lange.
Nous sommes en 1986. La Namibie, pas encore indépendante, est dirigée de facto par le régime voisin de l'apartheid en Afrique du Sud. Le lieutenant Mike Horn, 18 ans à l'époque, est envoyé à la frontière mater l'insurrection des indépendantistes au sein du bataillon 101 de l'armée, un bataillon qualifié de bataillon d'assassins par le premier président de la Namibie, Sam Nujoma, soupçonné d'exécutions arbitraires, notamment d'un leader indépendantiste. Interrogé par la RTS, Mike Horn dit ne pas avoir participé à ce genre d'opération et il estime avoir simplement fait son devoir.
À cette époque, pour moi, c'était de jouer un rôle activement dans la protection de l'Afrique du Sud. Ça veut dire que c'est un peu comme un peu la police, la protection, d'une manière que je l'acceptais. Pas pour tuer des gens, mais pour empêcher des mauvais éléments de tuer des gens que j'aime.
Un peu plus loin, Mike Horn évoque même cette période de sa vie comme une bonne expérience qu'il a formée au métier d'aventurier. Des mots visiblement maladroits, puisque quelques jours avant la diffusion du reportage, il a envoyé un communiqué à la RTS où il exprime ses regrets d'avoir participé à ces opérations militaires, tout en les assumant. Un numéro d'équilibriste qui interpelle dans le canton de Vaud, où s'est établi Mike Horn. Une députée a demandé aux autorités locales de dire si oui ou non le passé de l'ex-militaire est compatible avec son rôle d'ambassadeur touristique pour la région.
5.4 prend à l'éducation. L'éducation est un domaine d'application important pour ChatGPT.
C'était le phénomène de la fin 2022, c'est celui de ce début 2023, l'intelligence artificielle ChatGPT, cet agent conversationnel, comme on dit, en libre accès depuis fin novembre et développé par la start-up californienne OpenAI. C'est devenu une véritable star des réseaux sociaux, c'est votre Europe du Net, Clémence Pénard, bonjour.
Bonjour Juliette.
Mais chez les internautes, ChatGPT suscite autant de fascination que d'inquiétude.
C'est clairement monsieur ou madame, je sais tout. Avec un flegme imperturbable, cette IA est capable de répondre à toutes sortes de demandes, même les plus absurdes, mais on a choisi une première question plutôt simple. ChatGPT, qui es-tu ?
Je suis un modèle de traitement automatique du langage. J'ai été formé sur des millions de pages de textes, écrits par des humains, des articles de presse, des livres et des conversations en ligne.
Voilà, et en une seule semaine, l'outil avait déjà été utilisé par 1 million de personnes. Victime de son succès en ce moment, c'est même assez difficile de pouvoir accéder au site. ChatGPT est régulièrement en top tendance sur Twitter, aujourd'hui encore, où les internautes postent leur impressionnante interaction avec l'IA. Le système emmagasine toutes ces conversations, ces informations, et s'améliore plus on le teste. Il affine au fur et à mesure ses réponses. Microsoft a déjà investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, mais le groupe compte aller plus loin. On parle de 10 milliards de dollars en plus. Une manœuvre stratégique en ajoutant ChatGPT à son moteur de recherche Bing pour le rendre plus performant. Microsoft pourrait enfin tenir sa revanche sur Google qui domine toujours le marché.
Mais passé l'excitation de la découverte de ce nouveau gadget, Clémence, certains y ont vu des applications très concrètes.
Et oui, ce qui impressionne le plus, c'est qu'on peut aussi lui demander de nous écrire un poème, du code informatique ou même une disserte à rendre à notre prof d'histoire pour le lendemain. Oui, oui, ChatGPT met une belle pagaille dans le monde académique, comme l'explique David Da Silva. Il est le directeur France de l'Alliance Microsoft.
Si j'avais un devoir à faire, c'est-à-dire que je tapais l'intitulé du devoir et j'avais un document qui sortait et il faisait de copier, mais potentiellement, au niveau triche, c'était visible parce qu'il faisait qu'un professeur vérifie la source en tapant sur Google. Là, avec ChatGPT, la différence, c'est qu'il va générer à chaque fois un nouveau texte qui va donner la même explication, mais il va générer comme un humain un texte différent. Et donc, ce qui veut dire qu'en termes de triche, c'est impossible à trouver. La problématique qu'on peut avoir, que ce soit en termes de triche ou de sécurité, c'est l'inexactitude des données fausses provenant de ChatGPT. Il y a aussi des erreurs. Il suffit qu'il aille chercher une source de données qui elle-même est fausse et il va la retranscrire, parce qu'il ne va pas vérifier l'exactitude de la donnée. Il va s'en servir pour générer son texte.
ChatGPT ne cherche pas la vérité. Ainsi, au-delà d'une simple triche, il pourrait aussi s'avérer un outil de propagande massive. L'IA est capable de générer en quelques secondes des milliers de pages argumentées et pourrait donc inonder Internet de propos, par exemple climato-sceptiques, de manière très efficace avec des faux comptes sur Twitter, par exemple. Ainsi, si sur le papier, ChatGPT n'est pas là pour répandre le mal, l'homme peut parfaitement, comme pour tout, l'utiliser à mauvais escient.
Et au niveau européen, on tente peut-être déjà de réguler ce genre d'intelligence artificielle.
Alors, il existe bien un projet porté par Bruxelles, mais qui semble déjà démuni face à l'irruption de ce robot conversationnel. En ce qui concerne la modération des contenus, thème cher à l'Union européenne, OpenAI a tenté d'améliorer celle de ChatGPT pour limiter les réponses de l'outil qui pourraient être problématiques. Mais pour ce faire, l'entreprise a employé des travailleurs kényans sous-payés, comme le révèle une enquête du Time, seulement 2 dollars de l'heure pour trier une montagne de contenus violents, pornographiques, haineux et j'en passe. Vouloir être plus éthique en empruntant la route de l'immoral, c'est donc ça le progrès.
Merci Clémence, à bientôt. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, podcast disponible sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.